Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 6 juillet 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous au sommaire du journal. Blaise Compaoré attendu au Burkina Faso après 8 ans d'exil. Le retour de l'ancien président est prévu demain ou vendredi. À Luanda, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, s'accordent sur un processus de désescalade. Au Nigeria, des hommes armés attaquent une prison près d'Abuja et une équipe de sécurité du président tombe dans une embuscade de l'état de Katsina. Ici aux États-Unis, le suspect de la fusillade près de Chicago, inculpé pour 7 meurtres. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis qu'il a été renversé en 2014 par une insurrection populaire, est attendu à Ouagadougou pour participer à une réunion d'anciens chefs d'État d'ici la fin de la semaine, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. Dans un communiqué, mercredi, les avocats de Thomas Sankara ont appelé les autorités judiciaires à faire arrêter et déférer Blaise Compaoré à son arrivée au Burkina Faso. Le point avec Lamine Traoré, notre correspondant dans la capitale burkinabé.
Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir en octobre 2014 par une insurrection populaire, va revenir à Ouagadougou. L'information est confirmée par l'entourage de l'ancien chef d'État. Une source au sein du gouvernement a même confié l'information à VOA. L'ancien président devrait arriver ce vendredi à Ouagadougou. D'autres sources évoquent jeudi. Ce retour est voulu par les autorités de Ouagadougou et dans le cadre de la réconciliation nationale. Blaise Compaoré sera accueilli à la Villa Kadhafi, près du palais présidentiel aménagé pour la circonstance. Il devrait en principe passer juste quelques jours et retourner à Abidjan pour suivre sa santé, jugée fragile par ses proches. Les anciens présidents Roch Kabore, Jean-Baptiste Ouédraogo et Michel Kafando seraient tous favorables à cette démarche de réconciliation. D'ailleurs, dimanche, les autorités ont annoncé la libération totale de Roch Kabore. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le président ivoirien Alassane Ouattara va rencontrer ses deux prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan-Bédier. Ce sera le 14 juillet, c'est ce qu'a annoncé ce mercredi Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement. L'idée d'une rencontre entre les trois hommes était l'une des recommandations du dialogue politique entre pouvoir et opposition qui s'est tenu en début d'année pour apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire. Le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi se sont entretenus ce mercredi à Luanda, dans le cadre d'une médiation conduite par l'Angola. Les deux parties se sont entendues sur une désescalade selon Kinshasa. Le point avec Abdourahman Dia.
Un tweet de la présidence congolaise indique que la RDC, le Rwanda et l'Angola, médiatrices de l'Union africaine, ont convenu d'un processus de désescalade entre les deux pays. Selon Kinshasa, cet objectif se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda, axée sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda qui ne s'était plus réunie depuis plusieurs années. Une réunion de cette commission doit se tenir le 12 juillet, toujours dans la capitale angolaise. De même, la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC est prévu, toujours d'après la présidence congolaise. La rencontre de ce mercredi était la première entre les deux présidents depuis la recrudescence des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Les relations entre Kinshasa et Kigali ont commencé à se décrisper après l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019, mais la récente résurgence du M23 et l'intensification des combats entre les forces armées congolaises et cette rébellion ont ravivé les tensions.
Le président angolais João Lourenço, médiateur des pourparlers entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, a déclaré ce soir qu'un cessez-le-feu avait été conclu après une résurgence des tensions entre les deux pays dans l'est de la RDC. Au Nigeria, plus de 300 détenus se sont échappés d'une prison près d'Abuja après une attaque présumée de Boko Haram. Et dans l'état de Katsina, dans le nord du pays, des hommes armés ont attaqué hier soir un convoi présidentiel. Claire Morin-Gibou.
Une attaque a visé le centre pénitentiaire de Kougé, dans la banlieue d'Abuja. Un responsable du ministère de l'Intérieur a affirmé qu'il s'agissait d'un assaut de Boko Haram et que seuls 300 détenus ont été retrouvés sur les 600 qui ont pu s'échapper. Un agent de sécurité a été tué dans l'attaque, a déclaré Aboubakar Oumar, le porte-parole des services pénitentiaires. Quelques heures avant l'attaque de la prison de Kougé, des hommes armés ont aussi tendu une embuscade à un détachement d'agents de sécurité du président nigérian. Deux agents ont été blessés et l'identité des auteurs reste pour l'heure inconnue. Le président Muhammadu Buhari n'était pas présent dans le convoi près de sa ville natale où il doit se rendre ce week-end dans l'état de Katsina pour assister à la fête musulmane de la Tabaski.
Au Soudan, le général putschiste Abdel Fattah al-Burhan a commencé aujourd'hui à mettre en place son plan censé laisser place à un gouvernement civil, une initiative dénoncée par l'opposition et les manifestants mobilisés depuis 7 jours pour réclamer le départ du chef militaire. Il a limogé aujourd'hui les 5 membres civils du Conseil souverain qu'il avait nommé après le coup d'État. Les forces pour la liberté et le changement refusent de former un gouvernement avant le départ du général Burhan et doutent fortement de ses intentions. Un soldat algérien a été tué lors d'une opération de l'armée contre le terrorisme dans la préfecture de Aïn Defla, dans le nord du pays, a tweeté ce mercredi le président Abdelmadjid Tebboune. Aucune information n'a été divulguée sur cette opération militaire en cours à Aïn Defla, où 2 soldats avaient été tués il y a environ 1 an lors d'une opération antiterroriste. Depuis le début de l'année, l'armée a tué 10 djihadistes, arrêté 10 d'autres et saisi 323 armes selon un bilan publié aujourd'hui par le ministère de la Défense.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'auteur présumé de la fusillade survenue lundi à Highland Park a été inculpé pour 7 meurtres. La fusillade a eu lieu en banlieue de Chicago, dans l'Illinois, au cours des célébrations de la fête de l'indépendance. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Eric Reinhardt, procureur général du comté de Lake, estime que si Robert E. Crimo-Truy est reconnu coupable, il risque d'être condamné à la prison à perpétuité. D'autres chefs d'inculpation seront ajoutés, a précisé le procureur qui dit qu'il va demander à ce que le tireur présumé soit maintenu en détention sans aucune possibilité de libération sous caution. Selon les autorités, Robert E. Crimo-Truy, 21 ans, avait préparé son attaque pendant des semaines avant de tirer à l'aveuglette sur la foule qui assistait au défilé du 4 juillet depuis le toit d'un commerce. Surnommé Bobby, selon la police, il a tiré plus de 70 fois faisant 7 morts et au moins 35 blessés. Il s'est déguisé en femme pour se fondre dans la foule et fuir les lieux avant de se rendre au domicile de sa mère dont il avait emprunté la voiture. Il a été appréhendé à bord de ce véhicule quelques heures après la fusillade.
Les forces ukrainiennes s'efforcent de résister à une offensive majeure de l'armée russe dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, et aux tirs incessants de l'artillerie lourde employée par Moscou pour couvrir l'avancée des troupes au sol, ont déclaré aujourd'hui de hauts responsables ukrainiens, 3 jours après la perte de Lysychansk, son dernier bastion dans la région de Luhansk. L'armée ukrainienne tente de renforcer ses lignes de défense plus au sud, où les villes de Sloviansk et Kramatorsk essuient les tirs du barrage russe. Le premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé aujourd'hui sa détermination à continuer le mandat qui lui a été confié malgré les démissions en cascade au gouvernement qui l'affaiblit sur fond de scandale à répétition. Le travail d'un premier ministre dans des circonstances difficiles, quand un mandat colossal lui a été confié de continuer, c'est ce que je vais faire, a déclaré le chef du gouvernement lors d'une séance hebdomadaire de questions au Parlement, particulièrement électrique. Les ministres de la Santé et des Finances ont claqué la porte mardi soir, déclenchant l'hémorragie. D'autres membres du gouvernement moins haut placés ont à leur tour jeté l'éponge, portant à près d'une trentaine le nombre total de départs. En France, la première ministre Elisabeth Borne a posé aujourd'hui le premier acte d'une mission collective en s'engageant à gouverner autrement et à bâtir des majorités de projets pour répondre à la demande d'action de Français, avec notamment une série de mesures d'aide aux ménages. Pour son baptême du feu devant l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne, qui avait affiché l'image de la sérénité en se rendant à pied au palais Bourbon avec une partie de ses ministres, a livré une feuille de route sous le sceau du compromis, affirmant avec force sa détermination à avancer malgré une majorité relative qui la bride. Et puis, le Hajj, qui réunit cette année son plus grand nombre de pèlerins depuis le début de la pandémie, a commencé aujourd'hui avec des centaines de milliers de fidèles rassemblés autour du site le plus sacré de l'islam à la Mecque, 1 million de musulmans vaccinés, dont 850 000 venant de
l'étranger ont été autorisés à effectuer le Hajj cette année, après 2 années de limitation drastique des participants en raison de la pandémie de COVID-19. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique.
À présent, la minute éco avec Claire Morin-Dupont.
En Guinée, Yaya Sow, le ministre des Infrastructures et du Transport, a indiqué que les travaux de bitumage de la route Labé-Mali démarreront courant novembre ou décembre 2022. Proche du Mali et du Sénégal, les préfectures de Labé et de Mali en Guinée-Conakry sont des centres de négoces sous-régionaux avec un potentiel minier, agricole et touristique. Des atouts qui demeurent sous-exploités en raison des mauvaises infrastructures routières. En Éthiopie, le prix de l'essence a bondi depuis mercredi de près de 30% et celui du diesel de près de 40% après la suppression par les autorités d'une partie des subventions au carburant, alors que le pays est déjà en proie à une inflation de 35% depuis 6 mois. La hausse des prix des seuls produits alimentaires dépasse les 40%. Les ministres africains des Finances sont réunis à Marrakech au Maroc dans le cadre du caucus africain pour s'entendre sur le mémorandum à adresser au FMI et à la Banque mondiale. Les discussions portent sur une meilleure mobilisation des institutions de Bretton Woods pour apporter un soutien plus efficace à l'Afrique alors que le continent est confronté à une conjonction de crises et de défis d'une ampleur sans précédent, selon Madame Alaoui, ministre marocaine des Finances, qui a ouvert le forum.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
2 qualifiés pour les quarts de finale de la CAN féminine au Maroc.
Oui, il s'agit du pays hôte, le Maroc, qui a enchaîné une 2e victoire en battant l'Ouganda 3-1 et le Sénégal après sa victoire 1-0 contre le Burkina Faso. Marocaines et sénégalaises comptent 6 points et valident ainsi leur billet pour les quarts de finale de cette CAN féminine. C'est une première pour ces deux pays, toujours stoppés en phase de groupe. La poule B effectue sa 2e sortie dans cette CAN ce soir, battue d'entrée par la Tunisie. Le Togo défie le Cameroun et la Zambie joue les Tunisiennes.
Toujours en football, l'Ivoirien Franck Kessié a été présenté par le FC Barcelone.
Première recrue estivale du FC Barcelone, l'international ivoirien Franck Kessié a signé son contrat de 4 ans sur le terrain du centre d'entraînement du Barça. L'ancien joueur de l'AC Milan a ensuite été présenté par le président du club, Juan Laporta, enfilant pour la première fois la tenue Blaugrana pour une série de jongles et un taureau avec des enfants du club. « J'ai encore beaucoup à faire pour arriver à la hauteur de Yaya Touré », a déclaré Franck Kessié en hommage à son compatriote resté dans la légende du club catalan. Néanmoins, Kessié poursuit sa belle aventure dans sa passion.
Quand j'étais sur le terrain, j'étais très content. Je suis pressé de commencer les entraînements et connaître mes coéquipiers et aussi le staff technique parce que c'est beaucoup important. Donc j'attends de ma rentrée.
L'international ivoirien Franck Kessié, milieu de terrain du FC Barcelone.
Tennis à présent avec cette performance XL de Hans Jaber.
La Tunisienne numéro 2 mondiale est devenue à Wimbledon la première joueuse du continent africain à se hisser en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis la Sud-Africaine Amanda Coetzer en 1997. Hans Jaber a battu la Tchèque Marie Bouskova 3-6, 6-1, 6-1. En demi-finale, Hans Jaber se battra contre son ami allemand Tatjana Maria pour un nouveau défi, s'arracher une place en finale et faire rêver davantage.
Tour de France pour terminer, Simone Clark gagne l'étape des pavés.
Oui, l'Australien de l'équipe Israël Pitti a remporté la 5e étape courue entre Lille et Arenberg, mais le Belge Wout van Aert conserve son maillot jaune. L'étape courue en partie sur les pavés a mal tourné pour l'équipe Jumbo. Dominatrice hier, Sivan Hett a sauvé son maillot jaune malgré sa chute. Le Slovène Primoz Roglic a perdu plus de 2 minutes sur son compatriote Tadej Pogačar, champion sortant et premier des favoris à l'arrivée.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré retourne au pays après 8 ans d'absence. L'information est confirmée par plusieurs sources proches de l'ancien président et des médias locaux. Les partisans de l'ancien chef d'État pensent que c'est une bonne chose, car cela permettra au pays de retrouver sa stabilité, notamment au plan sécuritaire. Des organisations de la société civile estiment que ce retour de Blaise Compaoré ne le soustrait pas à la justice. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
C'est la une des médias locaux. Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en octobre 2014 par une insurrection populaire, revient pour quelques jours, voire quelques heures à Ouagadougou. L'information est confirmée par l'entourage de l'ancien chef d'État. Une source au sein du gouvernement a même confirmé l'information à VOA. Les partisans de l'ancien chef d'État se réjouissent de cette nouvelle. Ils pensent que cela pourra permettre d'apaiser les tensions et faire face à l'insécurité. Mamadou Abdelkader Traoré, coordinateur du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré.
On se réjouit de cela, ça fait bientôt 8 ans que le président Blaise Compaoré et les autres exilés sont en exil. Et nous avons toujours plaidé pour le retour des exilés dans le cadre de la réconciliation nationale. Et on se réjouit du fait que le président Compaoré pourra éventuellement, après son retour, mettre sa main dans la pâte pour apporter une pierre à l'édification du Burkina Faso, parce que le Burkina a mal avec cette crise multidimensionnelle. Des morts par-ci, des déplacés internes par-là, la crise alimentaire par-ci et la division intercommunautaire et intracommunautaire par-là.
Alpha Yago, porte-parole de la génération Blaise Compaoré.
Aujourd'hui, il y a 55% des territoires qui nous échappent. Et si on continue à ce rythme-là, j'ai bien peur que d'ici quelques mois, le Burkina risque de disparaître. Et pour stopper l'hémorragie, et il faut faire fi de certaines considérations politico-politiciennes, politico-juridiques, et pour mettre l'accent sur la cohésion, sur la réconciliation, sur la tolérance, le pardon et sur l'unité nationale in fine. Car c'est une question de patriotisme aujourd'hui, c'est la patrie qui est en jeu, donc on doit mettre en avant notre patriotisme.
Blaise Compaoré a été jugé et condamné à vie par contumace dans l'assassinat de Thomas Sankara. Sa présence n'a aucune entrave sur la justice. Marcel Tankwano est président du M21, un mouvement qui a participé à l'insurrection populaire de 2014.
La venue de Blaise Compaoré ne veut pas dire que tout simplement qu'il est gracié. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus poursuivi par la justice burkinabé. Non, pour nous, c'est une question circonstancielle qu'il faut régler. Donc, maintenant, s'il y a d'autres détails, il y a d'autres pans, eh bien, certainement que Blaise Compaoré va faire face à la justice de notre pays. Non, ça ne veut pas dire que Blaise Compaoré vient et qu'on va s'asseoir à la justice. Je ne pense pas à cela. Je pense tout simplement que le Burkina Faso est aujourd'hui dans des difficultés majeures et que Blaise Compaoré vient pour apporter son soutien, pour apporter sa touche dans le sens véritablement que les Burkinabés retrouvent la paix ou qu'on se retrouve, qu'il y ait la paix dans notre pays.
Si certains parlent de l'arrivée de Blaise Compaoré pour jeudi, d'autres évoquent vendredi. Le gouvernement ce mercredi, à travers son porte-parole Lionel Bilgo, a annoncé une rencontre importante entre les anciens chefs d'État du Burkina Faso d'ici la fin de la semaine. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Bénin, nouvelle attaque terroriste dans le nord du pays. Le bilan est de 2 morts dans les rangs de la police qui seraient tombés dans une embuscade alors qu'ils faisaient une patrouille de routine sur les sites récemment ciblés par des attaques. Que pensent les populations béninoises de cette attaque? Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Genève Fleur Adandé.
Longtemps épargné par les mouvements djihadistes, le Bénin a commencé à en subir les assauts depuis novembre dernier, en particulier dans le nord frontalier avec le Burkina Faso. La peur s'empare de la population.
C'est un sujet qui n'échappe à personne. Il y a ce développement très inquiétant. Le terrorisme prend d'ampleur. Et même à côté de nous, au Nigeria, il y a le Boko Haram. Donc c'est le moment d'être soudé. C'est le moment de se lever vraiment et équiper l'armée.
L'arrivée des djihadistes est en train de nous inquiéter un tout peu. petit peu dans le pays. Je lui donne de renforcer beaucoup plus la base militaire.
Il faut que l'État béninois prenne des précautions adéquates. On veut avoir la paix dans notre pays ici. Donc, affaire de djihadisme, nous, on ne veut pas. Nous, on veut la paix.
Personnellement, je ne sais pas là où cela nous amène. Franchement, je ne sais pas. Mon inquiétude à moi, c'est savoir la raison. Qu'est-ce qui les amène à agir ainsi?
Cette fois-ci, en plus des victimes, les assaillants ont emporté les engins, les armes, munitions et moyens de communication des deux policiers sauvagement abattus. Pour les Béninois, le gouvernement doit accélérer dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme. Mais pour l'observateur politique Agapit Maforikan, il faut une analyse posée avant toute action au risque de causer plus de pertes en vies humaines.
On ne peut pas placer un policier à chaque rue. On ne peut pas blinder un commissariat de policiers de chars. Donc il y aura toujours des vides, il y aura toujours des ouvertures, il y aura toujours des brèches dans lesquelles les terroristes peuvent entrer parce que eux ils sont en avance sur les autres. C'est eux qui sont à l'attaque, donc ils planifient, ils programment, ils scrutent et ils agissent.
Dans un communiqué conjoint publié fin juin, les ministres béninois de la décentralisation, Raphaël Akoteyan et son collègue de l'intérieur, Alassane Seydou, ont fait cas des recrutements qui se font par des assaillants et appelé les populations à la vigilance et à aider les forces de défense et de sécurité à appréhender tout individu qui tenterait de quelque manière que ce soit de trouver la paix et la quiétude dans leur localité ou hameau. Pour Ernest Cachon, le gouvernement doit œuvrer à ce que ces recrutements cessent.
Et voilà, ces groupes terroristes-là ont pour motivation, c'est juste semer le chaos et pouvoir profiter de ce chaos et tendre leur trafic.
Pour le porte-parole du gouvernement, l'exécutif est à pied d'œuvre et mène des actions pour repousser la menace terroriste. Wilfried Léandre Rumbedji.
La stratégie du gouvernement pour garantir la sécurité sur tout le territoire national suit son cours et s'intensifiera au regard de la nature des événements en cause. La dite stratégie déjà en cours de déploiement sera accélérée car, bien que le phénomène soit mondial et concerne particulièrement notre sous-région, il ne peut en aucun cas être au-dessus de nos moyens et n'entamera en rien notre détermination à y faire face avec succès.
Le ministre de l'Intérieur et celui de la décentralisation ont par ailleurs souligné que tous les étrangers résidant ou nouvellement arrivés dans une localité ou hameau doivent systématiquement se déclarer au commissariat de police le plus proche ou aux autorités locales, notamment les chefs d'arrondissement et les chefs de village. Il y va de la sécurité de tous. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Au Cameroun, une campagne nationale de prévention et de lutte contre les incapacités a été lancée mardi. Elle fait suite au constat selon lequel le taux de prévalence des maladies handicapantes est élevé. 6% de Camerounais ont le diabète et 35% souffrent de l'hypertension artérielle. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julentap.
Au Centre national de réhabilitation des handicapés à Yaoundé, une dizaine de personnes font la queue pour subir des examens médicaux.
Nous sommes là pour accueillir les patients qui viennent se faire dépister le diabète, l'hypertension.
Antoinette Mendobo est l'un des personnels de ce centre, déployé lors de la campagne nationale de sensibilisation sur la prévention des incapacités, le dépistage précoce et la réhabilitation des handicaps.
Sur cette table, nous prenons les paramètres et nous orientons les malades de l'autre côté, là où il y a l'autre stand, pour la glycémie. Nous avons déjà reçu 35 personnes depuis le match. Beaucoup plus les personnes âgées.
La soixantaine révolue, Didier Elundu s'appuie sur une béquille pour se déplacer. Il est venu pour une séance de massage.
C'est pour connaître mon état de santé, si c'est bon. Bon, c'est ce que j'ai appris de nouveau le matin, qu'il y aura la campagne. Le dépistage de la glycémie, de la tension avec le diabète.
Les résultats des examens sont communiqués sur place et les premiers conseils prodigués aux patients. Cette opération va durer une semaine sur l'ensemble du territoire national. Pandje Berlin Ito, secrétaire général du ministère des Affaires sociales.
La déficience étant de nature à hypothéquer la pleine participation des personnes handicapées aux activités de développement et de greffer les charges sociales par des coûts parfois exorbitants pour la prise en charge. L'impératif reste tout la prévention.
Le taux de prévalence des handicaps visuels est de 6,8% au Cameroun, selon l'OMS. Les experts indiquent que 80% des personnes devant porter des lunettes au Cameroun ne le font pas. Docteur Gaël Foto est ophtalmologiste à l'hôpital d'Obac.
Il y a des cécités qui peuvent être curables, comme la cataracte, comme les problèmes de lunettes, qu'on appelle les défauts de réfraction. Il y a des cécités qui peuvent être incurables, comme le glaucome, comme les traumatismes. Certaines, par rapport aux cécités évitables, on peut facilement les corriger grâce à la chirurgie ou encore tout simplement par le port des verres correcteurs.
La plateforme inclusive des personnes vivant avec un handicap a été associée à cette campagne nationale sur la prévention des incapacités. Oumarou Mbouombo, membre de la dite plateforme.
La réhabilitation coûte cher. Quand vous êtes des gens handicapés, il faut la mobilisation du pouvoir public pour pouvoir vous sortir de là. Et ce n'est pas chose aisée. Raison pour laquelle la sortie commence par là.
Selon les résultats du troisième recensement général de la population et de l'habitat publié en 2010, les personnes handicapées sont estimées à 2 millions au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Malawi, à cause du chômage très élevé, près de 2000 infirmiers ont déserté le pays pour aller travailler en Arabie Saoudite ou aux États-Unis. Cette fuite des cerveaux est alarmante, car plus de la moitié des postes d'infirmiers dans les hôpitaux publics sont vides. Reportage de Lamek Massina à Blantyre, le récit est de Nani Talani.
L'Organisation nationale des infirmières et des sages-femmes du Malawi affirme que plus de 3000 infirmières formées au Malawi sont au chômage. Charles Simza est président de cette organisation.
Nous ressentons le pincement qu'ont traversé et traversent les infirmières et sages-femmes au chômage. Vous savez, avoir obtenu un diplôme et avoir été autorisé à exercer pendant 5 ans sans être recruté, ce n'est pas facile. C'est dommage que notre système ne soit pas adapté au marché du travail et de l'emploi.
Il précise qu'un groupe de 1000 infirmières malawites doit partir en août prochain pour l'Arabie Saoudite.
Aux États-Unis, nous travaillons sur un protocole d'accord qui affirme que nous enverrons 1000 infirmières chaque année pour un projet de 5 ans.
George Jobé est le directeur exécutif du Malawi Health Equity Network. Il craint que les infirmières qui partent à l'étranger ne savent pas assez sur les emplois qu'elles vont occuper.
Qui d'autre s'est rendu dans ces pays et a vérifié les établissements de santé dans lesquels elles vont travailler et dans quelles conditions? Voilà quelques problèmes. Mais le plus important est que nous souhaitions qu'elles soient recrutées ici.
Messi Meza dit que l'organisation a reçu des assurances.
Ici au Malawi, nous aurons des documents signés par le ministère du Travail, vous-même en tant qu'organisation, le ministre de la Santé et l'agent. De l'autre côté aussi, nous considérons l'Arabie Saoudite comme le gouvernement et l'agent plus le ministère responsable de ce côté-là.
Les statistiques montrent que 65% des postes d'infirmières dans les hôpitaux publics du Malawi restent vacants. Dorothy Ngoma est la conseillère du président sur la santé reproductive et également l'ancienne présidente de l'Organisation des infirmières. Elle prévient que si le gouvernement ne trouve aucun moyen d'augmenter les salaires, beaucoup d'autres infirmières vont quitter le pays.
Ce qui va se passer, c'est que même ceux qui sont dans le courant dominant vont choisir de quitter les emplois gouvernementaux ici et d'aller aux États-Unis pour gagner plus d'argent. Il n'y a aucun problème avec ça, mais cela pourrait provoquer une fuite de cerveau et cela pourrait ne pas être bon pour le Malawi.
Et le gouvernement du Malawi assure qu'il ne peut pas embaucher plus d'infirmières maintenant en raison de contraintes financières.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.